Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deugnon, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas. Leur auraient même coupé les choses. Par bonheur, ils n'en avaient pas.
Et voilà, du coup, celle-là, c'était la chanson Hécatombe de Georges Brassens, qui est parue une première fois en 1952 sur un 78 tours. Voilà, chose qu'on ne connaît plus. Et qui termine le premier 33 tours de Brassens. Du coup, voilà, bon, c'est une chanson qui fait un peu rêver tout le monde. enfin, pas tout le monde, mais nous, au moins. Voilà, sur l'histoire de ces nanas au marché de Brive-la-Gaillarde, qui d'ailleurs maintenant porte le nom de marché de Halle Georges Brassens. Ouais, quand même, ça. voilà, de ces vendeuses d'oignons et de poireaux qui décident, de, après une engueulade, s'unir pour matraquer à grands coups de mamelle la maréchaussée. Donc plutôt une chouette histoire. Voilà, c'est pour une petite info, c'est la seule chanson de Brassens où on entend le mot anarchie, qui le ramène en fait, parce que c'est en 1952, donc il l'écrit peut-être en 1950 et quelques, quoi. Et en fait, c'est pas si longtemps après qu'il ait quitté les groupes anarchistes libertaires de Paris, auxquels il a appartenu entre 46 et 48. Donc à l'époque au 145 quai de Valmy, où il va faire pas mal d'articles et de petits écrits. Soit, alors il y en a qui vont paraître, un notamment qui va paraître à l'époque dans le journal Libertaire justement, et d'autres petits écrits qui paraissent dans des fanzines à droite à gauche. Donc un mouvement où il a rencontré pas mal de copains à lui, quoi, qui sont restés ses copains après. Et en fait, c'est en 1950, quand il commence la chanson, qui met un peu de distance avec son activisme politique personnel, même s'il continuera à chanter quand même pas mal de chansons anticléricales et anti-patronales. Enfin voilà, il y a quand même des thèmes qui reviennent assez souvent. Mais du coup, voilà, ça c'est un peu les derniers vestiges de l'anarchie de chez Brassens. De toute façon, voilà, ça reste quand même quelqu'un qui, après, politiquement, est resté toujours assez... de l'ordre de l'intime, quoi. Il n'a pas énormément parlé de politique, et puis quand il en parlait, on sentait bien que voilà, il était quand même assez engagé, mais que la musique, c'était aussi autre chose que de la politique, quoi. Que c'était pas juste son instrument politique, que c'était sa manière à lui de raconter des petites histoires. Et du coup, quand même, pour une autre petite anecdote, en c'est quand le je crois que c'est en 2009, si je dis pas de bêtises, que un jeune homme de 27 ans est interpellé à Rennes pour avoir chanté la chanson Hécatombe à sa fenêtre. Il est interpellé par la police, condamné à 40 heures de travaux d'intérêt généraux et à 100 euros d'amende pour outrage à agent. Ce mouvement soulève un petit peu quelques questions sur la liberté d'expression. À ce moment-là, le procureur dit, lui, enfin voilà, à son procès, le procureur dit d'accord pour chanter cette chanson devant son miroir, tout seul dans la salle de bain, et encore. Mais ensuite, pour la chanter à sa fenêtre, au moment où trois agents de police passent, si ça, c'est pas de l'outrage. Et donc voilà, il écope de cette peine. Et du coup, ça va quand même faire un petit peu de cohue, quoi. Et du coup, il y a les choristes de la chorale, les Canailles du Midi, qui vont reprendre la chanson devant un commissariat à Toulouse. Ils sont 29, en soutien à cet homme qui s'est fait arrêter et qui est passé en procès. Alors, il faut savoir que les 29 choristes, seront arrêtés, hein, voilà, interpellés. Et que donc, encore une fois. Comment dire, encore une fois, l'affaire sera pas retentissante, hein, ils vont pas écoper de grand-chose, je crois, mais enfin quand même, ils vont quand même passer en comparution. Ça ressoulève la question de est-ce que c'est interdit de chanter, ce qui est quand même un peu une atteinte à la liberté d'expression. Leur avocat, lui, considère que tout ce qui n'est pas interdit est permis, et chanter n'est pas encore interdit à ce moment-là. Et surtout que voilà, ça a été écrit avant par Brassens et que voilà, c'est juste et diffusé à cette époque, et donc ça a été juste repris par lui. Mais pour le procureur, Maître Varet, l'outrage est clairement démontrable. Donc là, je vais citer: en chantant à plusieurs devant le commissariat, les personnes ont donné un poids aux mots. Elles ont insisté sur le sens que Brassens donnait lui-même à la chanson, estime l'avocat en droit pénal. Selon lui, les choristes ont provoqué volontairement les agents de force publique, ce qui constitue une injure publique, passible de 7 500 euros d'amende et de 6 mois d'emprisonnement. En chantant à sa fenêtre, le Rennais, donc pour lesquels il s'était mobilisé, aurait également provoqué de façon manifeste les trois policiers. Voilà, donc c'est une super chanson, mais apparemment, il faut quand même faire gaffe au moment où on la passe ou si on la chante dans la rue, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec le matraquage à grands coups de mamelle des représentants des forces de l'ordre. Voilà, et on va enchaîner avec un autre moment sympa de l'histoire sur une voie un petit peu plus lancinante. On va écouter Ferré, l'affiche rouge. Voilà.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en érivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, ô mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers, nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui criaient la France en s'abattant.
Et voilà, c'était, voilà, si vous êtes en train de sécher vos larmes à 14h15, c'était l'affiche rouge. Donc on a fait un petit saut dans le temps, on s'est rendu compte effectivement, parce qu'on a parlé de la Seconde Guerre mondiale avec notamment Bella Ciao, Giovanna Daffini, la Résistance, etc. Puis on est passé à Hécatombe, puis on revient en fait... à la Seconde Guerre mondiale, on s'en mêle un petit peu les pinceaux dans toutes ces dates. Du coup, voilà, pour la petite histoire, pour faire assez académique, c'est donc chanté par Léo Ferré, c'est un poème de Louis Aragon qui s'appelle « Strophe pour se souvenir », qui a été écrit en 1955 en hommage aux immigrés résistants FTP-MOI, francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée du groupe Manoukian, qui ont donc fini, comme beaucoup de résistants, fusillés, voilà, au Mont-Valérien en 1944, juste quelques mois avant la libération de Paris. Donc ils sont passés à pas grand-chose de peut-être s'en sortir. Voilà, du coup, c'est chanté, c'est repris en 1959 par Ferré, qui va la faire connaître sous le titre de l'affiche rouge. L'affiche rouge, il faut savoir que c'était l'affiche sur laquelle apparaissait la tête de ces 23 résistants pendant l'occupation allemande. Et donc on voyait cette affiche rouge avec les têtes hirsutes de ces résistants étrangers. Voilà. Donc ils ont été forcément pendant la guerre dépeints comme des gangsters et comme des vilains immigrés qui ne cessaient de créer, voilà, faire sauter des trains, créer du grabuge à l'époque. Ils sont connus, la plus grosse action qu'ils aient fait, c'est l'assassinat du général SS Julius Ritter en 1943, le 28 septembre, qui supervise à l'époque le service du travail obligatoire, donc STO. D'ailleurs, pour la petite juste mise en parallèle, Brassens, qui a fait partie du STO, qui a été emmené en camp de travail obligatoire, a fait découvrir ses chansons et en fait s'est lancé dans la musique parce que il jouait de la guitare à ses potes entre le peu de temps qu'ils avaient et ses potes qui lui disaient: mais elles sont trop chouettes tes chansons, tu devrais en faire quelque chose. Et lui qui disait: oh bon, moi tu sais, bon. Et du coup qui s'est fait découvrir quand même après la guerre. Voilà, du coup, pour le reste de l'histoire, en août 1942, la direction nationale des FTP, donc des francs-tireurs partisans, enlève la direction des FTP Moy à Boris Holban, car celui-ci refuse d'intensifier le rythme de ses actions. Il juge non sans raison que le réseau est au bord de la rupture et il est remplacé à la tête par Missak Manoukian, donc celui qui était tout en haut de l'affiche rouge, voilà, la tête principale, le chef. Suite à une trahison, celui-ci est arrêté par la police française avec plusieurs de ses amis le 16 novembre 1943 à Évry-Petit-Bourg, sur les berges de la Seine. Sa compagne Mélinée réussit à échapper à la police. Donc c'est pour ça que dans le poème, on entend « Ô Mélinée, ô mon amour », c'est le message, voilà, c'est une lettre à sa femme. Donc livré à la police militaire allemande, Manoukian et 23 de ses camarades sont jugés devant la presse collaborationniste qui s'appesantit sur leurs origines et leur cynisme, ce qui peut nous faire un peu penser justement aussi à la petite chanson avant d'Hécatombe, parce que entre autres le procureur avait jugé du cynisme de chanter cette chanson à sa fenêtre devant trois policiers. Donc, quelque part, on reste toujours dans des lieux étranges de la justice. Donc, 22 seront exécutés le 21 février 1944 et c'en est fini du FTP Moï. C'est donc la fin du groupe de résistance qui prend fin avec l'exécution de ces 23 résistants. Rappelé par les FTP en 1943, Holban, qui s'était fait virer quelques mois avant, retrouve et exécute le traître qui a livré le groupe, quand même. Voilà, parce que faut pas déconner. Et du coup, après, il repartira en Roumanie où il devient colonel puis général. Alors bon, ça c'est à notre appréciation. Mais sous la dictature de Ceausescu, il est déchu et on l'envoie travailler dans une usine jusqu'à sa retraite. Voilà. Ouais, Holban. Donc lui qui s'est pas fait exécuter, mais qui a retrouvé le traître qui a dénoncé les 23 résistants. Voilà pour la petite histoire de l'affiche rouge. Voilà. Une horrible histoire, mais une belle chanson et un chouette mouvement. Voilà. Et on va enchaîner maintenant avec une autre guerre, parce que... Parce qu'une ne suffit pas, et puis que de toute façon, il y a quand même beaucoup de mouvements contestataires et de résistances qui sont nés pendant des périodes de conflit. Et du coup, là, ça s'appelle Vietnam 67, et c'est chanté par Colette Magny, et on va se l'écouter, puis après, on en parlera vite fait. Voilà.
Vietnam 67. Vietnam 67. Vietnam 67! Vietnam 67, je ne m'interroge plus sur le sexe des anges. Vietnam 67, Van Tien Dung m'a dit: viens, donne-moi la main, tu verras, ici c'est la guerre des vélos. Alors camarade, ton vélo est renforcé. Alors camarade, avec 300 kilos de vivres et munitions, tu vas pouvoir nous ravitailler. Mes camarades, tous les ponts sont coupés. Oui, mes camarades, la nuit dernière, on les a tous remplacés. Nous ne nous laisserons pas intimider. Il y a bien longtemps, pour l'air sage du matin, il y a bien longtemps, pour les repiquages du soir, nous étions deux dans la rizière. Mais une nuit, mon mari fut emmené avec 400 000 hommes et leurs bombardiers, avec 400 000 hommes et leurs gaz toxiques. La défaite militaire suivra l'échec politique. Nos paysans dressaient les abeilles sauvages au combat. Nous sommes toujours là. Alors maintenant, marin, les accords de Genève. Alors ma camarade, vous n'avez donc rien à en faire. Ho Chi Minh vous l'a dit, nous ne nous laisserons pas intimider. Vietnam 67, longue vie au peuple
Et voilà, c'était Vietnam 67 de Colette Mani. Donc Colette Mani qui a été une chanteuse vachement engagée, hein, ça on peut quand même pas lui enlever, qui s'est engagée sur plein de sujets, autant sur les répressions de grève dans les usines, que la guerre au Vietnam, que la pollution sur les côtes. Enfin vraiment, elle a eu... plein de sujets divers dont elle a parlé, voilà, dans son espèce de style un peu blues, slam parlé, rock, voilà, assez indéfinissable d'ailleurs, hein, c'est ce qui lui a souvent même posé un peu problème au niveau de sa diffusion dans sa carrière, hein, c'est que en fait beaucoup voulaient faire d'elle une espèce de chanteuse de blues un peu avec sa voix grave et profonde, et qu'elle elle aimait bien ce style là mais qu'elle aimait bien aussi plein d'autres styles, et puis qu'elle avait quand même des paroles assez mordantes qui plaisaient pas ni tellement aux radios ni tellement aux maisons d'édition. Voilà, donc là pour la petite histoire, ça commence. Donc, bon, comme on a pu le comprendre, c'est sur la guerre du Vietnam, hein, Vietnam 67. Voilà, elle parle de Ho Chi Minh, elle parle du mouvement communiste des Viet Cong là-bas. Donc, du coup, pour revenir un petit peu sur l'histoire contestataire qu'a réveillé la guerre du Vietnam, ça a commencé aux États-Unis en 1964. Donc là, on va avoir les premiers mouvements anti-guerre en fait aux États-Unis, et ça va très vite s'internationaliser, c'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir un peu le trait d'union plein de luttes contre la guerre, contre l'oppression, contre donc effectivement ce sera souvent c'est l'opposition à cette époque un petit peu du bloc libéral communiste qu'on retrouve assez souvent, hein. Donc souvent ça va être sous un petit peu de fond de rassemblement par le PCF par exemple en France ou trucs comme ça, qu'on va avoir ces artistes qui vont faire ces chansons et se produire sur scène. Là du coup ça commence, c'est un peu flou, on n'a pas exactement la date, mais en gros le premier mouvement un peu où il y a eu ces chansons qui ont été chantées, c'était le mouvement 6 heures pour le Vietnam, qui avait été prévu le 26 mai 1966 de 18h à minuit, voilà, place du colonel Fabien, du coup, qui était là pour dénoncer l'occupation américaine du Sud-Vietnam et dénoncer tous les moyens inhumains mis en place par l'armée à ce moment-là, torture, massacre de prisonniers, et j'en passe des plus sympas, napalm, agent,
ouais, c'est ça, etc. Ouais, bombe incendiaire.
Voilà, une bonne zone d'expérimentation militaire, quoi, c'est où clair. On a fait, enfin voilà, où on s'est permis, pas nous personnellement, mais où l'être humain s'est permis d'essayer des choses bien crado. Voilà. Et du coup, il y a ce mouvement qui est lancé, 6 heures pour le Vietnam. Et du coup, qui va être porté un petit peu, l'idée, c'est 6 heures qui ont une signification symbolique, qui veulent exprimer le sens aigu de la durée du conflit et de la continuité de l'action que nous voulons mener. Voilà, donc ça c'est ce qui a été dit au moment de cet événement, qui était l'organisatrice et historienne, comment elle s'appelait, que je vous dise pas de bêtises, Madeleine Ribeiro, voilà. Et du coup, l'idée, c'était de passer des films, des concerts, des peintures, qui traitaient un peu de ce thème. Et du coup, ce mouvement contestataire va être un peu artistique, va être un peu transporté par Joan Baez, dans toute l'Europe. Et entre autres, voilà, du coup, la chanteuse Colette Mani, qui va acquérir à ce moment-là pas mal de notoriété justement pour son répertoire assez engagé, ce qui était en fait assez rare dans la musique. Pour la petite anecdote, elle est à la base signée chez CBS, donc qui est une maison de disques, mais qui, face à une chanteuse qui va chanter Aragon, citer Lénine, Tchekhov, Einstein, chanter Un grand espoir, c'est Cuba. Il décide de la mettre à la porte parce que c'est pas très vendeur. Et du coup, elle va être reprise par une maison de disques qui s'appelle Chant du Monde, qui était une maison de disques assez proche du Parti communiste français à l'époque. Et du coup, en 1967, elle crée ce 33 tours qui s'appelle Vietnam 67. Et où il y aura en fait quand même plein de chansons sur d'autres trucs que j'aurais bien aimé passer, mais bon, on n'a pas non plus.
On fera une émission sur Colette Mani.
C'est ça, il faudrait faire toute une émission. Il y a Bourra Bourra qui est, si vous avez l'occasion de l'écouter, une sacrée chanson aussi, enfin, un espèce de texte déclamé sur les survivants de Hiroshima et donc sur les irradiés. Voilà, et puis d'autres chansons sur Cuba et sur un peu tous les mouvements à l'époque contestataires quoi, autour du monde pour lesquels elle prendra, dont elle fera la voix française en tout cas. C'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire. C'est un chouette album avec vraiment plein de chansons bien engagées qui remettent un peu les choses en place et qui font quand même assez plaisir à écouter par ces temps
refroidi.
Exactement. Et du coup, maintenant, on va s'écouter encore une chanson. Une chanson contestataire, vu que c'est le sujet de l'émission, qui s'appelle L'Estaca. Là, on va écouter la version des Motivés. Et puis, c'est pareil, on en parlera un petit peu après. Voilà, c'est parti, L'Estaca.
La bici z'etem parlava de bon matí al portal, mentre de sol esperàvem i els carros veiem passar. Si z'et que no veus l'estaca on estem tots ligats, si no podrem desfersar mai no podrem caminar. Si els tirem, tot seria el caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, 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 podrem alliberar. Però si se't fa molt temps ja, les mans et van escoltar i quan la força se me'n va, ells se'n veïs més gran. Veig el sec que està podrida, però és que si se't costa tant, quan la força m'oblida, tornem a dir al teu cap. Si estirem, tot seria el caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí, jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i es podrem alliberar. La bicicleta ja no llures, mar ben coixada al portal. He cruixat cap a Quinindre i no sota el portal. Quan passe la nos baires, estire el cor per cantar. Al dare cantant siset, l'udare quan va ensenyar.
sia stirem tot seria ancora e molete non può dura segur che tomba 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 ben corcana deu se già si tu resti respor per chi io resti non for per già segur che tomba 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 yes podemos
Et voilà, c'était la version des motivés de l'Estaca ou l'Estac. Donc pour la petite histoire, parce que voilà, on a une petite histoire avec toutes les chansons, c'est du coup une chanson catalane qui a été composée par Luis Llach en 1968. Du coup, ça a été composé durant la dictature de Franco en Espagne et c'est un peu un cri à l'unité d'action pour se libérer de l'oppression. Du coup, les paroles d'ailleurs, hein, c'est un peu la métaphore de ça, on va voir un peu après. Du coup, ça a été un symbole de lutte contre l'oppression franquiste en Catalogne et c'est devenu un symbole de lutte pour la liberté à l'international, vu que cette chanson, encore une fois, un peu comme Bella Ciao avant, a été traduite en plus de 50 langues. Du coup, ça fait quand même un paquet de reprises dans des langues différentes, toujours avec ce thème. Du coup, c'est l'histoire, parce que c'est une petite histoire en fait, cette chanson, c'est l'histoire d'un gamin qui s'assoit tous les matins avec un vieux grand-père qui s'appelle Grand-père Cizé ou Avi Cicette, ou voilà, qui est un personnage qui a réellement existé, on va le voir après, et qui lui demande voilà, face à l'oppression, regarde les injustices du monde, regarde la puissance de l'oppresseur, qu'est-ce qu'on peut bien faire, voilà, on est complètement impuissant finalement face à tout ça, et le vieux qui lui dit mais en fait, et du coup qui utilise la métaphore du piqué quoi, du pieu, hein, ce que veut dire l'estaca d'ailleurs, c'est le pieu. Et du coup qui lui dit regarde ce pieu planté là en face, bon bah si tu tires dessus tout seul ou qu'on tire tous dans un sens différent et du coup opposé, il reste planté dans la terre, mais par contre si là au lieu de tirer tous dans des directions opposées on tire tous dans le même sens pour se libérer de l'oppression, et ben ce pieu il tombe. Et donc c'est un peu voilà, attends, et il tombera et c'est comme ça que nous aurons la liberté. Et du coup c'est un peu voilà, c'est l'histoire de cette chanson, c'est ce petit jeune qui parle avec ce papy. Mais en fait c'est pas juste c'est pas sorti de nulle part. Grand-père Cizé en fait, qui est un personnage qui a réellement existé, qui était un mec hyper engagé, qui était barbier à Bessalou, donc c'est une ville en Catalogne, et qui rangeait pas ses opinions à l'époque dans sa poche, qui était sous Franco républicain, catalaniste et anticlérical, du coup et qui faisait de son échoppe de barbier un lieu de rencontre et de débat politique. Du coup, c'était quand même un sacré papy, quoi. Du coup, lorsque la République est proclamée en 1931, il est élu conseiller municipal sous l'étiquette d'ERC. Alors ça, j'aurais dû regarder. Je sais, voilà, je saurais pas. C'est la gauche républicaine catalane. Mais exactement ce que veut dire ERC, je sais pas. Et du coup, à la suite de la guerre civile, il se fait attraper. Ouais, oui, c'est ça. Oui, bah, Izquierda, ouais. Voilà. Bon, c'est la gauche catalane, ERC. Voilà. Et du coup, après la guerre civile, il se fait attraper et il est un peu démis de ses... Il est démis de ses fonctions et on l'humilie en le forçant du coup à nettoyer des églises et à assister aux messes pour un anticlérical, ce qui est quand même pas facile, quoi. Et il arrive à échapper, il arrive à échapper aux messes en prétextant que le dimanche c'est le jour où, comme Barbier, c'était le jour le plus plein dans sa boutique et que du coup il pouvait quand même pas se rendre aux messes parce qu'il fallait qu'il coupe la barbe de ceux qui n'y allaient pas. Et du coup, l'histoire de cette chanson débute en 1960. Il se met à passer tous ses étés dans, dans la maison de sa deuxième fille à Vergès. Et c'est là que Louis Lack, donc celui qui a écrit la chanson, qui est à l'époque et qui est toujours, hein, qui a toujours été, mais qui a quand même bien changé, fils du médecin et maire franquise du village. Du coup, celui qui a écrit la chanson est le fils d'un maire franquiste. Et en fait, il se lie d'amitié avec ce vieux en allant pêcher au bord du Terre, qui est une petite rivière qui passe là-bas. Et où du coup, il a des grandes discussions avec grand-père Sicette, qui lui dit réveille-toi, quoi. Tu vois, le franquisme, c'est pas l'expression de la liberté, c'est même tout sauf ça. Et du coup, ce gamin lui demande ok, mais bon, d'accord, c'est pas la liberté, mais en même temps, comment on fait pour obtenir la liberté? Et le vieux lui raconte cette métaphore en fait du pieu. Et du coup, Louis Lack décide de d'écrire les paroles de cette chanson et aussi d'ailleurs change complètement de bord. Enfin, en tout cas, on sait pas si, vu qu'il était enfant, s'il change vraiment de bord, mais en tout cas, il se forge des opinions politiques et il devient il écrit une chanson qui devient un symbole de la révolution, de la liberté et de la lutte contre le franquisme, ce qui est quand même c'est quand même qu'il y a de l'espoir dans tout, quoi, ce qui est quand même plutôt chouette. Et du coup, voilà, bon, alors cette chanson, elle a été reprise de tous les côtés, dans toutes les langues, par donc, la version qu'on a écoutée par Zebda, donc sur l'album Motivé. C'est devenu par exemple l'hymne du club de rugby de Perpignan qui aurait, ben voilà, donc je sais pas si c'est vraiment voilà, je sais, voilà, connaissant Perpignan, je sais pas si ça prend tout son sens, mais pourquoi pas. Et voilà, après elle a été reprise par plein d'albums, elle a été interprétée en arabe par Yasser Djeradi, en basque par Gorka Knörr, elle est reprise en breton, elle s'appelle Harpel, le pieu, par Thierry Gainé, en corse, en espéranto, en français, en occitan, en niçois, en polonais, en russe. Et du coup, voilà, elle a été le symbole du désir de retrouver la liberté et de se libérer de l'oppresseur. Et voilà, c'est un peu tout. On pourrait sûrement en faire aussi un exposé si on voulait approfondir vraiment tous les abords. Et du coup, là, on va passer à un style complètement différent parce que là, on va sauter un gros paquet de... Voilà, là, on va passer de chants un petit peu à des chants contestataires plus que des chants qui ont porté des révoltes. Et on va commencer là avec l'Angleterre, avec un groupe qui s'appelle les Sex Pistols. Et on va écouter Anarchy in the UK. Et voilà, c'est parti.